Radio Campus Lille, il est 15h.
Radio Campus et le Centre Léo Ferré vous donnent rendez-vous les 3, 4, 5 décembre 2016 pour la 11e rencontre Léo Ferré. En présence de Marie Ferré, sur le thème Léo Ferré et la création. Au programme, une journée consacrée à la création polymorphe. Un spectacle de Vincent Vedovelli, un concert de Michel Avallon, de toutes les couleurs, des lectures de Philippe Asselin de l'espace Pasolini de Valenciennes, un concert de Fromésil, un spectacle de Gilles Droulet qui interprète Léo Ferré et les poètes. Un atelier d'écriture, Restez vivant avec Léo. Plus d'infos sur le site de la mairie d'Aulnoy-Aymeries, aulnoy-aymeries.fr ou sur le site www.campuslille.com.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocales.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de D'été Fabula Narratur, votre émission de collage littéraire sur les ondes de Radio Campus 106.6. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Thibaut, Flore, Augustin, Arthur et Justin. Comme d'habitude, la première partie de l'émission sera dédiée à la lecture de textes autour d'une thématique, et vous retrouverez en deuxième partie vos rubriques chéries, telles que la rubrique aléatoire et nos succulentes et savoureuses anecdotes. Malheureusement, je crois bien que nous devrons nous passer de notre cher et tendre Olibrius. Le professeur ne nous donne malheureusement pas de nouvelles, mais nous le retrouverons sûrement bientôt. Mais commençons par lire le courrier de nos fidèles auditeurs, les courriers que nous avons reçus donc cette semaine. Rappelons que vous aussi, vous pouvez nous écrire pour nous faire part d'un écrit que vous auriez composé ou d'un exercice de style auquel vous vous êtes livré et que vous voulez partager à l'antenne. Vous pouvez également nous donner votre opinion sur l'émission ou nous faire part de vos suggestions. Pour cela, notre adresse mail, fabula.narratur@laposte.net ou notre site, fabulanarratourblog.wordpress.com.
Olibrius ne nous a pas contactés, mais le Léon Trolski, qui revient toutes les semaines, lui, nous a encore envoyé un mail, et sans même prendre la peine de dire bonjour. Il nous a renvoyé. Tiens donc, il y a eu des efforts depuis la dernière fois. En première partie, nous avons enfin eu quelques descriptions fidèles à la réalité des forçats de la faim, bien que ce soit des choses rapportées et non constatées par vous-même. Évidemment, il faudrait pour ça sortir prendre l'air. La chronique aléatoire a failli m'arracher un sourire. Elle avait le goût de l'élan populaire tant attendu en ces temps où l'exploitation n'a jamais été aussi cynique. Mais elle était malheureusement bourrée de fantasmes gauchistes. Et en fin d'émission, un petit clin d'œil à la révolution cubaine, mais surtout un gros coup de projecteur sur un énième fauteur de troubles rouge-brun, comme s'il n'y avait pas assez d'auteurs observant scrupuleusement la doctrine socialiste. Bon, j'aime autant vous le dire tout de suite, rectifier vos erreurs est une chose, essayer de me piquer mon taf en est une autre. Si vous tenez tant que ça à venir labourer sur mes champs thématiques pour y faire du travail de cochon, prenez plutôt votre samedi et allez faire vos achats de Noël. Laissez-moi l'antenne et les auditeurs profiteront enfin d'un propos cohérent sur la lutte des classes. Ils m'entendront lire à voix haute le brouillon du livre sur lequel je travaille actuellement, De Vercingétorix à François Hollande, une histoire de la social-traîtrise en France. Internationalement, Léon Trolski. faudrait commencer à penser à l'inviter pour qu'on règle nos comptes avec lui, peut-être.
Je pense qu'on peut lancer l'invitation officiellement.
Oui,
contrôle
oui, oui.
Qui nous écoute.
C'est vrai que, un petit peu.
À défaut de le voir s'inviter lui-même, déjà à moitié par ce courrier et par ses courriers répétés chaque semaine.
Oui, il y tient. Et un deuxième courrier des lecteurs de Gengis Calm, qui nous dit « Eh, j'ai vachement kiffé l'histoire du type qui veut manger des nouveau-nés. C'est bien de laisser une petite place aux coutumes qui ont fait la grandeur des peuples tomber dans l'oubli. J'espère qu'il y aura d'autres histoires bien crades comme ça. Gengis Calm. »
Merci Gengis Calm.
C'est direct.
Tout à fait, ouais, on s'imagine bien que ce n'est pas forcément l'avis général de tous les auditeurs qui nous écoutent. Hein,
mais on fera un effort.
Tout à fait. Message reçu.
D'accord. Pour cette semaine, donc, nous entamons notre nouveau cycle d'émissions qui portera sur le surhomme. L'homme qui s'affranchit de sa condition, qui dépasse son humanité, devient en un sens un surhomme. Comment peut-on repousser les limites de notre existence? Par quel biais est-il possible de transgresser cet état de fait? Surmonter notre finitude est-il toujours synonyme d'amélioration? Et quels sont les effets de telles transformations? Aujourd'hui, nous aborderons le surhomme dans sa capacité à contourner la finitude de la chair, c'est-à-dire la mort.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les tortues vivent plus longtemps que des générations d'hommes? Pourquoi l'éléphant voit disparaître des dynasties humaines l'une après l'autre? Et pourquoi le perroquet ne meurt que s'il est mordu par un chat ou par un chien, ou s'il souffre de quelque autre mal? Pouvez-vous me dire pourquoi des hommes, en tout temps et en tout lieu, ont cru que certains sont appelés à vivre éternellement? Nous savons tous, la science l'affirme, que des crapauds sont restés pendant des milliers d'années dans le même petit trou sous des rochers. Pouvez-vous me dire pourquoi le fakir de l'Inde peut se donner la mort et se faire enterrer, faire sceller son tombeau et y faire semer du blé? Pourquoi on en sème encore après la première récolte et pourquoi, lorsque ce nouveau blé est coupé, des hommes viennent enlever le seau et trouvent, étendu dans son tombeau, le fakir, non pas mort, mais qui se lève aussitôt pour marcher parmi eux? Pour moi, il me semblait que j'allais perdre la tête. Van Helsing me farcissait l'esprit de tant d'excentricité de la nature, de tant d'impossibilité qui devenait tout à coup possible que mon imagination prenait feu. Je me doutais vaguement qu'il voulait me démontrer quelque chose, comme autrefois à Amsterdam. Seulement, alors, il m'indiquait l'objet de son cours afin que je l'eusse tout le temps à l'esprit. Aujourd'hui, je n'étais pas soutenu par ce point de départ, et pourtant, je ne désirais rien tant que suivre son idée et les développements qu'il allait en donner.
Professeur, laissez-moi être à nouveau votre étudiant préféré. Dites-moi le sujet que vous traitez, afin que je puisse appliquer vos théories à mesure que vous les avancez. Pour le moment, c'est comme un fou, et non pas comme un homme sain d'esprit, que j'essaye à grand-peine de relier les exemples que vous prenez. J'ai l'impression d'être un enfant pataugeant dans un marécage, partant de brouillard et sautant d'une touffe d'herbe sèche à une autre, sans savoir où je vais.
Ma foi, l'image est bonne. Eh bien, je vais vous dire tout de suite où je veux en venir. Je veux que vous croyiez.
Que je crois ?
Oui, que vous croyiez à des choses auxquelles, jusqu'ici, vous ne croyiez pas. Laissez-moi vous expliquer. Un jour, j'ai entendu un Américain définir ainsi la foi. Une faculté qui nous permet de croire à des choses que nous savons n'être pas vraies. Je saisis parfaitement l'idée de cet homme. Il veut que nous gardions l'esprit ouvert, que nous ne laissions pas une toute petite vérité arrêter le progrès d'une vérité plus grande. C'est cette vérité infime que nous appréhendons d'abord, nous l'estimons à sa juste valeur, mais nous ne devons pas lui laisser croire qu'elle est toute la vérité de l'univers.
Vous voulez donc que des idées préconçues ne m'empêchent pas d'en accepter d'autres, plutôt extraordinaires ?
Quand Shri Bahamba, rouvrant les yeux, regarda vers l'étagère, il y vit le ballon de verre qu'il y avait posé plusieurs semaines auparavant et, au-dessus du col de ce ballon, fraîche comme au premier jour, la rose qu'il y avait mise à tremper. Il prit le ballon dans ses mains pour s'assurer que c'était la même rose, ou plutôt pour s'assurer du contraire, car il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Un domestique ou une laborantine avait sans doute remplacé la rose fanée, mais il avait reconnu son cœur doré et le dessin de ses pétales. C'était bien la même. Il se rappelait plus facilement le visage d'une fleur que celui d'une femme. Pour être scientifiquement sûr de ne pas se tromper, il fit absorber du JL3 à un papillon, Tomatis diores, aux ailes brunes tachées de bleu, dont la durée de vie, bien connue, ne dépassait pas 30 heures. Il enferma dans un placard de fer dont il possédait seul la clé le ballon de verre avec sa rose, dans lequel il rajouta de l'eau, et la cage de verre contenant le papillon. 4 semaines plus tard, la rose et le papillon étaient toujours vivants et vigoureux. Le papillon avait vécu 20 à 30 fois la durée normale de sa vie. Transposé à l'échelle humaine, cela représentait de 1000 à 2000 ans d'existence. C'est ainsi que Sri Bahamba sut qu'il était immortel. Il s'était injecté du JL3 et, comme le papillon et la rose, sauf accident, empoisonnement, manque d'eau, d'air ou de nourriture, il allait vivre interminablement, sinon éternellement. Il voulut en être certain et savoir pourquoi. Il revint à ses souris. Celles qu'il avait traitées au JL3 se portaient à merveille, se montraient vives, gaies, alertes. Il leur inocula tous les germes nocifs dont il disposait dans son laboratoire, y compris la peste et le charbon. Aucune ne mourut. Aucune même ne fut malade. Bahamba en conclut que le JL3 avait provoqué la création par leur organisme d'un anticorps universel qui les rendait réfractaires à toutes les maladies. Et l'exemple du papillon et de la rose montrait que cet anticorps protégeait également les organismes vivants contre celle des maladies qui est la plus terrible, le vieillissement. Dans le règne vivant, la mort est une absurdité idéologique. Elle semble avoir été surajoutée à l'œuvre de vie par un accident ou une intervention étrangère. Tout est prévu par la nature pour qu'un organisme vivant, parvenu à son point parfait de développement, s'y maintienne d'une façon définitive. Or, il ne se maintint pas. Arrivé au sommet de lui-même, il commence, lentement, puis de plus en plus vite, à glisser sur la pente qui le conduit à la destruction. Chez l'être humain, le vieillissement commence dès l'âge de 18 ans. Alors qu'il sort à peine de l'adolescence et qu'il s'imagine n'avoir encore rien commencé, l'homme et la femme sont déjà au bout de leur vie, intacts. Déjà, sans le savoir, ils engagent le combat perdu contre la maladie dont nul ne guérit. L'homme normal ne doit pas être malade. L'homme normal ne doit pas vieillir. La fantastique organisation de son corps vivant a reçu, à l'origine, la science et le pouvoir de lutter victorieusement contre toutes les agressions pathologiques, quelles qu'elles soient. Mais il semble qu'au cours des temps, son mécanisme de défense se soit, ou ait été, mystérieusement bloqué. Les vaccinations le débloquent, en partie, rendant le corps de nouveau capable de se défendre seul pendant une certaine durée contre certains microbes, par exemple ceux de la variole ou du tétanos. Ce que Sri Bahamba avait trouvé, c'était, semble-t-il, le moyen de rendre l'homme de nouveau vainqueur de tout, comme à l'heure de sa création. Scientifiquement, Bahamba n'aurait de certitude absolue en ce qui concernait l'action du JL3 sur le vieillissement humain que lorsqu'il aurait dépassé de façon déraisonnable la durée habituelle de la vie. Il ne pouvait pas attendre 100 ans pour prendre une décision. Cette décision était déjà formulée dans son esprit. Hindouiste et croyant, il pensait que la mort est nécessaire. Elle n'est qu'une porte entre deux vies. C'est seulement après avoir passé une infinité de portes que l'âme humaine se trouve nettoyée, purifiée, libérée, et peut alors rejoindre Dieu. Supprimer la mort, c'était fermer ses portes, condamner les âmes incarnées à rester à tout jamais prisonnières de la matière, des illusions et des douleurs. C'était le bagne pour l'éternité. En dehors de toute croyance, que se passerait-il si les propriétés du JL3 étaient divulguées? Ou bien les gens au pouvoir, arguant du danger de donner de l'immortalité à tout le monde, restreindraient ou interdiraient l'emploi du vaccin, c'est-à-dire se le réserveraient. Alors s'instituerait une effrayante inégalité, celle de la vie et de la mort, qui susciterait les plus sanglantes révolutions. Ou bien, au nom de l'égalité et de la justice, l'humanité entière serait vaccinée en quelques années, et la non-mortalité des adultes s'ajoutant à la non-mortalité infantile, la densité de la population deviendrait telle que la mort prendrait abominablement sa revanche par la famine, l'assassinat des vieillards et des enfants, l'empoisonnement général par les déchets et l'asphyxie. Bahamba était indien. Il connaissait de ses yeux et dans son cœur les effets de la surpopulation et du manque d'aliments. Il avait vu à Calcutta les camions ramasser chaque matin dans les rues les cadavres d'enfants morts de faim. Contre cette agonie-là, le JL-3 ne pouvait rien. Il ne pouvait que la rendre universelle. Tous les stocks de bombes H du monde feraient moins de ravages que l'immortalité. C'est pourquoi, dès qu'il fut certain que le JL-3 avait été partout détruit comme il l'avait demandé, son soulagement fut immense.
Ce jour-là, tout devient clair pour moi. Les troglodytes étaient les immortels, le filet d'eau fangeuse, le fleuve que cherchait le cavalier. Et quant à la ville dont la renommée s'était étendue au-delà du Gange, il y avait 9 siècles que les immortels l'avaient détruite. Avec les décombres, ils édifièrent au même endroit la cité extravagante que j'avais parcourue, sorte de parodie ou d'envers, et en même temps temple des dieux irrationnels qui gouvernent le monde et dont nous ne savons rien, sauf qu'il ne ressemble pas à l'homme. Cette fondation fut le dernier symbole auquel consentirent les immortels. Il marque l'étape où, comprenant la vanité de toute entreprise, ils décidèrent de vivre dans la pensée, dans la pure spéculation. Ils élevèrent la construction, l'oublièrent et allèrent se terrer dans les crevasses. Absorbés, ils percevaient à peine le monde physique. Homer me racontait tout, me parlant comme à un enfant. Il me raconta aussi sa vieillesse et le dernier voyage qu'il entreprit, mu comme Ulysse par l'idée d'arriver jusqu'aux hommes qui ne savent pas ce que c'est que la mer, qui ne mangent pas de viande assaisonnée et qui ne soupçonnent pas ce que c'est qu'une rame. Il habita 1 siècle dans la cité des immortels. Quand on la détruisit, il conseilla d'édifier l'autre. Cela ne doit pas nous surprendre. On sait qu'après avoir chanté la guerre d'Ilion, il chanta la guerre des grenouilles et des rats, pareil à un dieu qui créerait d'abord le cosmos puis le chaos. Être immortel est insignifiant. À part l'homme, il n'est rien qui ne le soit, puisque tout ignore la mort. Le divin, le terrible, l'incompréhensible, c'est de se savoir immortel. J'ai noté que malgré les religions, pareille conviction est extrêmement rare. Juifs, chrétiens, musulmans confessent l'immortalité, mais la vénération qu'ils portent au premier âge prouve qu'ils n'ont foi qu'en lui, puisqu'ils destinent tous les autres, en nombre infini, à le récompenser ou à le punir. J'estime plus raisonnable la roue de certaines religions de l'Inde. Dans cette roue, qui n'a ni commencement ni fin, chaque vie est la conséquence d'une vie antérieure, et elle engendre la suivante, sans qu'aucune ne détermine l'ensemble. Exercée par l'entraînement séculaire, la République des Immortels était parvenue à une certaine perfection de tolérance et presque de dédain. Elle savait qu'en un temps infini, toute chose arrive à tout homme. Par ses vertus passées ou futures, tout homme mérite toute bonté, mais également toute trahison par ses infamies du passé ou de l'avenir. Ainsi, le jeu de hasard, les nombres pairs et impairs tendent à s'équilibrer. Ainsi s'annulent l'astuce et la bêtise. Et peut-être le grossier poème du Cid est-il le contrepoint exigé par une seule épithète des églogues ou par une maxime d'Héraclite. La pensée la plus fugace obéit à un dessein invisible et peut couronner ou commencer une forme secrète. J'en connais qui faisaient le mal pour que le bien en résulte dans les siècles à venir ou pour qu'il en soit résulté dans les siècles passés. À cette lumière, tous nos actes sont justes, mais ils sont aussi indifférents. Il n'y a pas de mérite moraux ou intellectuel. Homère composa l'Odyssée. Aussitôt, accordé un délai infini avec des circonstances et des changements infinis, l'impossible était de ne pas composer au moins une fois l'Odyssée. Personne n'est quelqu'un, un seul immortel est tous les hommes. Comme Agrippa, je suis Dieu, je suis héros, je suis philosophe, je suis démon et je suis monde, ce qui est une manière fatigante de dire que je ne suis pas. La notion de monde comme système de précise compensation eut une grande influence parmi les immortels. En premier lieu, elle les rendit invulnérables, à la pitié. J'ai mentionné les antiques carrières qui s'ouvraient dans la campagne, sur l'autre rive. Un homme tomba dans la plus profonde. Il ne pouvait se blesser ni mourir, mais la soif le brûlait. 60 années passèrent avant qu'on lui jetât une corde. Le destin personnel n'intéressait pas davantage. Le corps était un docile animal domestique et il suffisait, chaque mois, de lui faire l'aumône de quelques heures de sommeil, d'un peu d'eau et d'un lambeau de viande. que personne pourtant ne nous rabaisse au niveau des ascètes. Il n'est pas de plaisir plus complexe que celui de la pensée, et c'est à celui-là que nous nous consacrions. Parfois, une excitation extraordinaire nous restituait au monde physique. Par exemple, ce matin-là, la vieille joie élémentaire de la pluie. Ces rechutes étaient rarissimes. Tous les immortels étaient capables d'une quiétude parfaite. Je me souviens de l'un d'eux que je n'ai jamais vu debout. Un oiseau avait fait son nid sur sa poitrine. Parmi les corollaires de la doctrine selon laquelle il n'existe aucune chose qui ne soit pas compensée par une autre, il en est un de très peu d'importance théorique, mais qui nous conduisit, à la fin ou au début du Xe siècle, à nous disperser sur la surface du globe. Il tient en quelques mots. Il existe un fleuve dont les eaux donnent l'immortalité, il doit donc y avoir quelque part un autre fleuve dont les eaux l'effacent. Le nombre des fleuves n'est pas infini. Un voyageur immortel qui parcourt le monde, un jour, aura bu à tous. Nous nous proposions de découvrir ce fleuve.
Cesse donc de te jouer de cette tristesse qui, comme un vautour, dévore ta vie. En si mauvaise compagnie que tu sois, tu pourras sentir que tu es homme avec les hommes. Cependant, on ne songe pas pour cela à t'encanailler. Je ne suis pas moi-même un des premiers, mais, si tu veux, unis à moi, diriger tes pas dans la vie, je m'accommoderai volontiers de t'appartenir sur le champ. Je me fais ton compagnon, ou, si cela t'arrange mieux, ton serviteur et ton esclave.
Et quelle obligation devrais-je remplir en retour ?
Tu auras le temps de t'occuper de cela.
Non, non, le diable est un égoïste et ne fait point pour l'amour de Dieu ce qui est utile à autrui. Exprime clairement ta condition. Un pareil serviteur porte malheur à une maison.
Je veux ici m'attacher à ton service.
Obtenir l'intégrale de ce produit, de même que plusieurs autres produits de musée.
Je veux ici m'attacher à ton service, obéir sans fin ni cesse à ton moindre signe. Mais, quand nous nous reverrons là-dessous, tu devras me rendre l'appareil.
Le dessous ne m'inquiète guère. Mais d'abord en pièces ce monde-ci, et l'autre peut arriver ensuite. Mes plaisirs jaillissent de cette terre, et ce soleil éclaire mes peines. Que je m'affranchisse une fois de ces dernières, arrive après ce qui pourra. Je n'en veux point apprendre davantage. Peu m'importe que, dans l'avenir, on aime ou haïsse, et que ces sphères aient aussi un dessus et un dessous.
Dans un tel esprit, tu peux te hasarder. Engage-toi, tu verras ces jours-ci tout ce que mon art peut procurer de plaisir. Je te donnerai ce qu'aucun homme n'a pu même encore entrevoir.
Et qu'as-tu à donner, pauvre démon ? L'esprit d'un homme en ses hautes inspirations fut-il jamais conçu par tes pareils ? Tu n'as que des aliments qui ne rassasient pas. De l'or pâle, qui sans cesse s'écoule des mains, comme le vif argent. Un jeu auquel on ne gagne jamais. Une fille qui, jusque dans mes bras, fait les yeux doux à mon voisin. L'honneur, belle divinité, qui s'évanouit comme un météore. Fais-moi voir un fruit qui ne pourrisse pas avant de tomber. Et des arbres qui tous les jours se couvrent d'une verdure nouvelle.
Une pareille entreprise n'a rien qui m'étonne. Je puis t'offrir de tels trésors. Oui, mon bon ami. Le temps est venu aussi où nous pouvons faire la débauche en toute sécurité.
Si jamais je puis m'étendre sur un lit de plumes pour y reposer, que ce soit fait de moi à l'instant. Si tu peux me flatter au point que je me plaise à moi-même, si tu peux m'abuser par des jouissances, que ce soit pour moi le dernier jour, je t'offre le pari.
Top.
Et réciproquement, si je dis à l'instant « reste donc, tu me plais tant », alors tu peux m'entourer de liens. Alors je consens à m'anéantir. Alors la cloche des morts peut résonner. Alors tu es libre de ton service. Que l'heure sonne, que l'aiguille tombe, que le temps n'existe plus pour moi.
Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, Je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1h du matin, et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque, tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune, stupide de la créature. Elle se mit à respirer, et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soins? Ses membres étaient disproportionnés, et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté. Quelque beauté, grand Dieu! Sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides, dont la couleur semblait presque la même que celle, blême, des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. Les avatars multiples de l'existence ne sont pas aussi variables que les sentiments humains. J'avais, pendant 2 ans, travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela, j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait, et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire, et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta, et je me jetai tout habillé sur mon lit pour chercher, quelque temps, l'oubli de ma situation. En vain. Je dormis sans doute, mais ce fut pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Elisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'enlaçai, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide comme la mort, ses traits se décomposèrent, et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Un linceul l'enveloppait et, à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillai avec horreur. Une sueur glacée me couvrait le front, mes dents claquaient. J'étais saisi de convulsions. Puis, la lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre et j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau de mon lit et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il fit entendre des sons inarticulés, tout en grimaçant. Peut-être parlait-il, mais je ne l'entendis pas. Une de ses mains était tendue, comme pour me retenir. Je pris la fuite et me précipitai vers les escaliers. Je cherchais refuge dans la cour de la maison, où je passais le reste de la nuit, marchant fébrilement de long en large, aux aguets, attentif au moindre bruit, à croire qu'il annonçait chaque fois l'approche du démon à qui j'avais si piteusement donné la vie. Oh, quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation! Une momie à qui l'on rendrait l'âme ne pourrait pas être aussi hideuse que ce misérable. Je l'avais observé avant qu'il ne fût achevé. Il était laid à ce moment-là. Mais quand ses muscles et ses articulations furent à même de se mouvoir, il devint si repoussant que Dante lui-même n'aurait pas pu l'imaginer.
Voilà, notre première partie se termine ici. Donc, vous venez d'écouter donc des textes issus de Dracula,
Bram Stoker.
Tout à fait. Du Grand Secret, le Grand Secret de Barjavel, de la nouvelle L'Immortel de Borges, de Faust de Goethe et enfin de Frankenstein de Shelley. Voilà, donc vous êtes toujours sur l'écoute de Radio Campus 106.6. Et tout de suite, on vous propose d'écouter The Last Shadow Puppet, Dracula Tiss. Drift away with silver flames.
Ces histoires de mort là, ça me paraît pas très très joyeux. Moi, je préfère quand même l'immortalité. Et toutes ces histoires m'ont donné le tournis. Il y a une solution pour éviter ça, c'est la logique. 1. Les grands-mères ont toujours raison. 1.1. La mort, c'est pas génial. 1.2. Selon les grands-mères, ce qui est pas génial, il faut l'éviter. 1.3. La mort est à éviter. Le problème est posé. Comment faire pour éviter de mourir? Et qu'est-ce que ce serait que de réussir à éviter de mourir? 2. Ce qui vient après est mieux que ce qui vient avant. 2.1. Ce qui est mieux et vient après s'appelle progrès. 2.2. Réussir à ne pas mourir vient après le moment où on ne pouvait pas ne pas mourir. 2.3. Ne pas mourir est un progrès. Donc vraisemblablement, on est en marche vers le progrès. Comment est-on parvenu à faire avancer le progrès jusqu'ici? 3.1.1. L'homme marche parce que les ours marchent. 3.1.2. L'homme mange parce que les pivers mangent. 3.1.3. L'homme tombe parce que les cailloux tombent. 3.2. Tout ce qui marche, mange ou tombe est une chose. 3.3. L'homme est une chose. 3.4. Une chose progresse pour faire comme les choses. 3.5. Inversement. Et nous ne voulons pas ici simplement progresser, mais nous cherchons un progrès bien précis, celui de ne pas mourir. 4.1.1. Les boîtes de conserve ne meurent pas. 4.1.2. Les gigaoctets ne meurent pas. 4.1.3. Les poissons rouges ne meurent pas. 4.1.3.2. Eratum, mon poisson rouge est mort. 4.1.4. Les boîtes de conserve, les gigaoctets et les poissons rouges sont des choses. 4.1.5. L'homme ne doit pas mourir parce que les boîtes de conserve et les gigaoctets et les poissons rouges ne meurent pas. 4.1.6. Les choses ne doivent pas mourir parce que les choses ne meurent pas. Reste maintenant à trouver le secret des choses qui fait qu'elles ne meurent pas. 5.1. Ma grand-mère est morte. 5.1.2. Les grands-mères ne sont pas mortes. 5.1.3, il y aura toujours des grands-mères. 5.1.4, les grands-mères ne meurent pas. Ça y est, il semblerait qu'on ait percé le secret, le pluriel. Donc, chère chose seule devant ton poste de radio, nous te livrons donc le secret de l'éternité, soit plusieurs.
Yes.
venez d'écouter donc Temple's Test of Time.
La chronique aléatoire.
L'horoscope rimé en chronique aléatoire. C'est donc l'heure de savoir ce que vous réservent les astres, réjouissances ou désastres. Pour sonder les signes des astres, en Irma ou Cassandre je me grime et en Lafouine pour la rime. Bélier, aujourd'hui vous êtes béni, choyé par l'influence de Pluton, adieu Pôle emploi, bonjour CDI, penthouse et jaguar de fonction. Chaussons d'hermine au saut du lit et bain de bouche aux mouettes et chandons. Jouez au loto, remplissez des grilles, en tout vous trouverez satisfaction. Taureau, vous les Raging Bulls qui habituellement êtes des terreurs, aujourd'hui serez fragile comme une boule, à fleur de peau y a pas d'erreur, a.k.a. la libellule. Gémeaux, signe de l'air, il ne faudra pas vous dégonfler, quoi que vous ayez à faire, même si c'est un horoscope rimé. Cancer, mes petits crabes et tourteaux, pourtant blindés de votre carapace, vous n'oserez toujours pas sortir de l'eau, et à raison, car tournent les rapaces. Lion, à tous ces natifs chanceux, du signe le plus swag de l'horoscope, en ce jour, votre superbe sera en jeu, car vos ascendants se télescopent. Vierge, aujourd'hui c'est le grand jour. Après une si longue attente, vous cueillerez les fruits de l'amour et glisserez sur la mauvaise pente. Balance, y avez-vous bien réfléchi? C'est moche de cafeter ses amis. Personne n'aime les donneurs, gare aux représailles de rigueur. Scorpion, encore une belle journée, vous ne manquerez pas de piquant et passerez votre temps à troller, agaçant, irritant, provoquant. Sagittaire, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette petite mine? Aucune raison de bouder, car Neptune est de votre côté. Capricorne, croyez-moi sur parole, quoi que l'on vous propose dans la soirée, dans les limbes et vapeurs de l'alcool, sans détour, il faudra refuser. Verseau, vous trouverez votre recto. Il s'agira d'une tenante de la Vierge. Le baromètre sera au plus beau, tant vous saurez manier la verge. Poisson, gare au faux pas, car vous barboterez en eau trouble. Ne frayez point avec les barracudas, vous n'y gagnerez pas un rouble. Voilà, donc tenez-vous à carreau.
We'll be right back.
Voilà, vous écoutiez Black Sabbath avec Iron Man.
Et pour la suite, on a un groupe qui a trouvé le secret de l'immortalité avec notamment Liam Gallagher qui projetait en une photo grand format de l'ami John Lennon. Et ce qu'il voulait nous dire, c'est que le meilleur moyen qu'on a trouvé d'arriver proche de l'immortalité, c'est la légende. Et voici Oasis avec Live Forever.
I just
Une vieille, excessivement curieuse, s'est trop penchée par la fenêtre et s'est écrasée par terre. Une autre vieille s'est penchée par la fenêtre pour la regarder, mais par excès de curiosité, elle a perdu l'équilibre et s'est écrasée par terre. Puis une troisième vieille est tombée de sa fenêtre, puis une quatrième, puis une cinquième. Quand la sixième vieille s'est écrasée par terre, j'en ai eu marre de les regarder. Et je suis allé marcher sur le marché de Malsève, où paraît-il, quelqu'un avait offert un châle brodé à un aveugle. Il était une fois un homme roux qui n'avait d'yeux ni d'oreilles. Il n'avait pas non plus de cheveux, et c'est par convention qu'on le disait roux. Il ne parlait pas car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il n'avait même ni bras ni jambes. Il n'avait pas de ventre non plus, pas de dos non plus, ni de colonne. Il n'avait pas d'entrailles non plus. Il n'avait rien du tout. De sorte qu'on se demande de qui on parle. Il est donc préférable de ne rien ajouter à son sujet. Une histoire bien surprenante m'arriva récemment. J'oubliais ce qui venait d'abord, le 7 ou le 8. J'allais voir mes voisins et leur demandais ce qu'ils pensaient à ce sujet. Quelle ne fut donc pas ma surprise, et la leur, lorsqu'ils découvrirent qu'eux non plus ne se souvenaient pas de l'ordre des nombres. Ils se rappelaient de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais pas de la suite. Nous allâmes tous au magasin gastronome. Celui-là même qui se situe à l'angle de la rue Znamenskaya et de la rue Basseïnaïa, et interrogeâmes la caissière sur notre désarroi. La caissière sourit tristement, sortit un petit marteau de sa bouche, remua légèrement le nez et dit « Je pense que 7 vient avant le 8 dans le cas où 8 viendrait avant le 7. » Nous remerciâmes la caissière et soulagés courûmes hors du magasin. Mais là, réfléchissant aux paroles de la caissière, nous nous décourageâmes de nouveau, car ces mots nous parurent dépourvus de tout sens. Que devions-nous faire ? Nous allâmes dans le jardin d'été pour y compter les arbres. Mais arrivés à 6, nous nous interrompîmes suite à un désaccord. Certains d'entre nous pensaient que l'arbre suivant devait être le 7e, d'autres affirmaient que c'était le 8e. Nous eûmes pu discuter très longtemps, mais par chance, à ce moment, un bébé tomba d'un banc et se cassa les deux mâchoires. Cela nous détourna de notre conversation. Après quoi, nous rentrâmes chez nous. Y a-t-il quelque chose sur Terre qui ait une signification et qui puisse même changer le cours des événements, non seulement sur Terre, mais également dans d'autres mondes ? Ai-je demandé à mon professeur. Oui, m'a répondu mon maître. Et quoi donc ? Ai-je demandé. A commencé mon maître, mais soudain il s'est tu. J'étais là, et j'attendais avec impatience sa réponse. Et lui, il se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Lui aussi se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Et lui aussi se taisait. Nous étions là, tous les deux, et nous nous taisions. Oh là là. Nous sommes là, tous les deux, et nous nous taisons. Ouloulou. Oui, oui. Oui, nous sommes là, tous les deux, et nous nous taisons.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side.
chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Voilà, DT Fabula Narratour, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous. Vous nous retrouverez donc samedi prochain, comme d'habitude. Hein. Nous continuerons notre exploration du surhomme et de l'homme surnaturel hein, dans ses représentations, dans les textes de littérature. Alors, vous pouvez nous écrire à l'adresse... Alors, je retrouve notre adresse.
narratour@laposte.net.
Merci Thibaut. Et ainsi, vous pouvez nous contacter via notre site fabulanarratourblog.wordpress.com. Aujourd'hui, je tiens à remercier spécialement Augustin et Flore qui nous ont fait des super lectures, et Augustin particulièrement pour sa programmation musicale rock'n'roll particulièrement pertinente. Salut à tous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.